elle ouvrait la petite porte de Titi.
Et elle assistait du quoi là? C'est d'ici qu'elle assistait à la messe. Et aussi elle voyait les pèlerins. Et donc elle voyait aussi quelles étaient les fautes dont ils avaient à se faire pardonner. Et puis elle leur faisait savoir. Si tant est qu'ils avaient oublié la nature de leurs fautes. La Vierge lui est apparue en disant « Je suis le refuge des pécheurs. Tous ceux qui viennent ici ressortent avec l'odeur du ciel. » Souvent, très souvent, quand vous venez au sanctuaire ici, vous avez des odeurs célestes, de violettes, de lys, de jasmin. C'est très très connu depuis plus de 3 siècles, c'est comme ça. Hein? Voilà. Et c'est assez récent. On a toujours vénéré Sœur Benoîte, mais c'est seulement depuis 8 ans seulement, je crois, 7-8 ans. C'est avec le pape Benoît qu'elle a été reconnue vénérable, c'est-à-dire on a connu les miracles, l'héroïcité des vertus. Des miracles, il y en a eu, hein, je veux dire, on ne sait pas. Voilà, et donc la canonisation, la béatification de Sœur Benoîte est en route, mais ça ne fait de doute pour personne de toute façon. Voilà, donc je répète, donc si dans les moments où vous êtes libre, quand c'est pas l'adoration, quand c'est pas la messe à la basilique, quand c'est pas un office, quand vous verrez, il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, vous pouvez monter dans le cœur, hein, c'est exceptionnel. Le Saint des Saints de Notre-Dame du Los, c'est cette petite oratoire qui est beaucoup plus petit que celui-ci, qui se trouve au milieu de la basilique. Vous passez derrière l'autel, vous vous allongez, vous vous prosternez comme ça, sur la tombe de Benoîte, sur cette pierre tombale, elle est là. Donc les reliques de son corps spirituel sont liées à sa vision béatifique. Il y a tous les mérites de la visitation de la Vierge pour les pécheurs. Si dans les litanies de la Vierge, il y a Marie, refuge des pécheurs, c'est à cause de la descente et la présence de Marie ici, sur la terre, sur notre terre, elle est apparue ici. Et depuis, on a rajouté, on a mis les litanies de la Vierge et on dit toujours refuge des pécheurs, à chaque fois qu'on célèbre les litanies de la Vierge, où que ce soit. C'est à cause de ce qui s'est passé ici. Quand on s'allonge sur la tombe, pierre tombale, vous allongez tranquillement, vous l'avez fait juste un petit peu, c'est bien. Mais quand vous viendrez ici une autre fois, vous pouvez le faire avant de partir, à un moment où vous sentez libre, pas la nuit parce que c'est fermé, ici ce sera ouvert. Alors, vous pouvez vous allonger, vous prosterner comme ça sur la tombe, comme faisait Élisée ou Élie le prophète, ou bien aussi Saint-Pierre sur Talita. Voilà, on s'allonge et vous laissez simplement le rayonnement du corps spirituel de Benoîte et de Marie, refuge des pécheurs, vous enveloppez, vous traversez, et une nuée sort de vous, et vous obtenez une lumière, une grâce de libération. Une grâce de libération, une grâce de purification. Hein? Parce que notre corps, même si on est converti, garde la mémoire des péchés, Voilà, et donc cette mémoire, elle reste, même si vous avez reçu l'indulgence plénière, la mémoire ténébreuse, lourde, assourdissante, etc., reste en vous. L'absolution, l'indulgence plénière ne vous donne pas nécessairement la purification de la chair et des cellules qui doivent être régénérées. Hein, voilà. Donc quand vous allongez sur la tombe de Saint-Benoît, vous verrez, vous restez une minute. Non, ce n'est pas trop, mais ça suffit, une minute, ce n'est pas la peine de rester 3 heures. Hein. C'est une minute, et puis vous laissez simplement, vous vous abandonnez, vous laissez faire, et vous verrez très 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 nettement qu'un nuage est sorti. Hein. Voilà. Voilà. Il y a 2 ou 3 endroits comme ça dans le monde. Quand vous allez par exemple à Montréal, au Canada, vous faites ça sur la tombe du frère André, vous obtenez la même chose. C'est quelque chose d'analogue, un petit peu. Et vous avez un troisième endroit dans le monde, c'est évidemment, vous le savez, sur la pierre noire de Notre-Dame du Puy-en-Velay. Alors. Mais c'est beau. C'est beau, c'est vrai. Et elle est, si l'Église ne canonise la sœur Benoît que dans ces jours où nous sommes, ça veut dire que ce qui lui est arrivé il y a 300 ans, 300, 330 ans à peu près, eh ben, c'est que c'est quelque chose qui doit nous parler à nous dans maintenant, si l'Église ouvre le pouvoir des clés, dans son pouvoir des clés, eh ben, le trésor des mérites de ce qui s'est passé ici à 330 ans, ça veut dire que c'est pour la période qui va s'ouvrir maintenant, hein, avec sa béatification, hein, avec sa canonisation. Voilà. Et effectivement, cette lutte extraordinaire corps à corps avec le ciel, avec les démons. Les démons prenaient Sœur Benoît comme ça par les cheveux et l'emportaient là-bas, là-haut, à 3 km. À un moment, elle se retrouvait comme ça toute seule, en haut d'un rocher, là, elle s'est emportée par le démon, quoi. Elle était là, elle ne savait pas quoi faire. Alors, elle a dit, c'était un peu, hein, c'était pas, c'est tous les jours des choses comme ça lui arrivaient, la pauvre Benoît, la chère Benoît, là, ça. Mais elle est, et alors du coup, bon, Saint-Michel-Archange est venu, l'a réconforté, mais il ne l'a pas ramené à la maison. Il l'a aidé à descendre du rocher sans avoir trop peur de dévisser, n'est-ce pas? Et puis elle est revenue douloureusement, comme ça, des pieds nus. Le seul démon l'avait emporté, elle était pieds nus, quoi. Elle n'était pas légèrement vêtue. Voilà. Donc, mais les histoires de Sœur Benoît sont assez pittoresques, très, 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 très en relief. Hein. C'est toujours très, très saillant. Hein. Et j'espère que peut-être qu'on aura. Peut-être qu'on va pouvoir demander au frère Martin, que vous avez vu pendant le chapelet à droite, là, qu'il nous fasse un petit tour. S'il peut le faire, ce serait bien. Mais ça ne peut se faire, je pense, qu'après l'adoration, donc vers 18h, 18h30, il faudrait qu'on arrive à le lui demander, d'accord? Et c'est un garçon délicieux, c'est un frère merveilleux, voilà, qui a très très bien connu le père Emmanuel. Je signale en même temps aujourd'hui que c'est le 15, donc nous célébrons la messe pour la troisième fois aujourd'hui. Et c'est beau ça, de savoir que nous célébrons la messe pour la troisième fois, pour le jour du Hoshana Rabba d'Israël. Kol. Mevassa, on fait Omer. Et on le fait dans le Saint des Saints. On le fait dans le Saint des Saints. Nous célébrons la messe en pénétrant l'intérieur du Saint des Saints, d'où Dieu a créé chaque être humain depuis des milliers d'années, des milliers d'années. On s'engloutit dans le Saint des Saints, il y a un unique diamant où le roi du ciel, la paternité brûlante, lumineuse et royale de Dieu. Royal, quand on dit royal, ça veut dire fécondité, royauté. Royauté, c'est fécondité éternelle. Et fécondité sur la terre, on dit paternité, maternité. En théologie, hein, mystique, hein. Et quand on dit royauté, ça veut dire fécondité, comme paternité maternelle, mais éternelle. Et la royauté, c'est une fécondité, mais elle est dans l'instant éternel de Dieu. C'est ça la royauté, donc, vous voyez. Donc le Saint des Saints, la royauté royale, la royauté éternelle du Père. Et le Père, là, c'est un diamant, ce Saint des Saints. C'est dedans qu'on s'introduit, il y a un unique diamant. Chacun d'entre nous, nous avons été, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, constitués à partir de l'amour éternel et royal du Père. Dans le Saint des Saints qui est le sien, dans l'origine primordiale. Et du coup, l'amour éternel, le mouvement éternel d'amour et royal du Père s'est concentré et s'est investi, s'est englouti en nous et s'est mis en unité avec nous, une unité royale. C'est pour ça qu'on est des petits rois fraternelle de l'univers. Il nous attribue, comme dit l'Écriture, au-dessus des anges. Pourtant, les anges sont d'une dignité infiniment supérieure à la nôtre. Il nous a placés au-dessus des anges à cause de la fécondité. Pourquoi ? Parce que Dieu a besoin de la fécondité royale pour vaincre toutes les libertés contraires. Un ange ne peut pas compléter dans le mystère de compassion le fait que la vérité, en cas de miséricorde, et d'amour infini pour racheter les péchés du monde ou le mal qui pourrait s'y faire, la vérité peut être jetée dans la terre, mais pas dans le ciel angélique. Parce qu'il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de complémentarité royale. Et c'est ce qu'en fait aujourd'hui la compassion de Marie, c'est une complémentarité. Dieu a besoin d'une complémentarité. Parce qu'il faut que ce soit un mariage et l'au-delà de l'unité des deux qui mettent à bas tout ce qui est contraire à la royauté éternelle et ancrée de Dieu. Donc on va célébrer cette troisième messe dans ce terme. À chaque fois que Dieu nous a créé l'un d'entre nous, et bien nous étions comme ce diamant. On est un diamant glorifié, transfiguré, royal, ou dans une unité avec la paternité royale et vivante de Dieu. Paternité royale, cette fois-ci on peut le dire, parce que paternité, on existe de manière vivante dans une âme, et on vit non seulement l'image ressemblance de Dieu, mais il n'y a pratiquement pas de voile dans notre oui avec l'existence éternelle de Dieu. Et on a commencé avec ce diamant, bien sûr, la propagation du péché originel est venue assez vite. C'est vrai, mais ce diamant que nous sommes, que nous avons été, que notre âme a été ce diamant, où règne la très sainte Trinité glorieusement, de manière transfigurée et royale. Et le Père reste là, toujours. Et il l'a fait des milliards de fois. Combien de fois il a créé un être humain dans la matière vivante de son sanctuaire paternel et royal. Et en fait, il n'y a qu'un seul diamant. Il n'y a qu'un seul saint des saints. Il n'y a qu'un seul sanctuaire. Il est évident que l'Immaculée Conception a la vastitude de ce diamant unique et indivisible de la paternité royale créatrice de Dieu. Donc on rentre dans son sanctuaire pour célébrer la messe. À ce moment-là, on rentre dans l'infaillibilité de la Jérusalem de la terre. Voilà les trois blancheurs. Venir ici, c'est quand même très important. Elle est le refuge des pécheurs. Quand on rentre dans ce diamant du sanctuaire de Marie, alors à ce moment-là, notre reniement, notre trahison, notre délaissement de la sainteté pure et accomplie de Dieu, voilà, sont immédiatement investis du diamant unique de l'Immaculée Conception de la Sainte Compassion. Immédiatement. C'est pour ça qu'il y a cette grâce sur la tombe de Benoît, parce qu'elle en est le signe. Et elle dit « refuge des pécheurs ». Regardez saint Pierre, quand il a renié, il s'est réfugié dans le cœur de Marie, « refuge des pécheurs ». Et ça, son reniement, au lieu d'être d'engendrer en lui une humiliation, de quoi se tordre de douleur d'avoir fait une chose pareille, ça s'est transformé en fontaine intarissable d'infaillibilité de la Jérusalem d'en haut, dans son accomplissement final. Ça s'est transformé en amour, amour, amour. Amour de la fin, amour final, amour accompli, amour total, amour catholique, amour universel. Voilà ce qui s'est passé quand le reniement de Pierre est rentré dans le diamant du sanctuaire immaculé de Marie dans sa compassion. C'est ce qu'il a fait, Saint-Pierre. Voilà ce que fait le pape aujourd'hui. Et du coup, à partir de ce moment-là, Saint-Pierre n'a plus rien dit, ne pouvait plus rien dire. Écrasé par l'amour, la pierre s'est brisée en deux, une fontaine intarissable jusqu'à la fin du monde, dans le cœur mystique du sacerdoce éternel d'amour de Dieu. C'est ça que nous avons vu, hein, que nous avons entendu. C'est là-dedans que nous nous enfonçons. Et de venir aujourd'hui dans Marie, notre refuge des pécheurs, c'est très important pour que l'infaillibilité de la Jérusalem spirituelle dans cette pierre ouverte devienne un amour qui crie dans le silence d'un amour fou, qu'il n'y ait plus de reniement. C'est pour ça qu'on dit à la communion, je ne te donnerai plus le baiser de Judas, je ne te donnerai plus, je ne rentrerai plus dans le doute et le triple reniement de Pierre. Alors je tenais. Alors je voulais vous dire que comme demain on va aller voir la Santissima Bambina à Montmorin, on va aller sur la tombe du Père Emmanuel, c'est-à-dire on va aller sur la tombe de la mort de Saint Joseph quelque part, hein, bon, c'est ça. Hein. En allant là, hein, la mort de Saint Joseph, c'est la nativité de Marie qui pleure, c'est le nard. C'est le nard qui embaume le Saint-Sépulcre jusqu'à la fin du monde. Hein. On va aller à Montmorin pour ça. C'est l'enfance de l'Immaculée Conception co-rédemptrice. C'est quelque chose d'inouï ce qu'on va faire demain. Et à partir d'aujourd'hui, on a engagé un petit peu le début d'une neuvaine. Je vous le signale. Parce que la neuvaine, en fait, elle commence aujourd'hui. Et c'est une neuvaine qu'on fait. Et on... comment dirais-je? Vous savez peut-être que juste avant de partir, vous avez eu le temps de regarder sur catholique. Et le Père Emmanuel, ben il faut que le Père Emmanuel, on en parlera, mais on ne peut pas assez attendre, mais il faut que le Père Emmanuel, voilà, puisse dire que sa mission, elle doit quand même surabonder à un moment donné, elle doit se dire... Il faut qu'on rentre dans la co-rédemptrice qui vient de naître, la médiatrice des larmes, oui, c'est vrai, la complémentarité ultime, dans le saint des saints de l'enfance, qui est silencieux et parfumé, la Santissima Bambina, mais enfin, si vous voulez, tout ce ministère de l'Église qui doit devenir aussi limpide que Marie, ou bien quand elle vient d'être conçue et qu'elle déborde son Immaculée Conception dans l'accomplissement de son Assomption, dans les larmes. Elle a vécu la co-rédemption en débordant le temps et en instituant dans chaque seconde du temps jusqu'à la fin du monde l'océan des larmes qui aspire le Saint-Esprit à la terre et au ciel. Ça, c'est la Santissima Bambina. Il faut devenir petit comme on serait plus en sanctuaire, comme quand on était petit et comme lorsqu'elle était toute petite, 9 mois avant la naissance, 8 mois avant la naissance, 3 mois avant la naissance, à sa naissance. Conception de l'océan des larmes qui aspire l'Esprit Saint. Ah, cette spiritualité qui est la nôtre, finalement, c'était la mission du Père Emmanuel. Il faut quand même qu'elle enveloppe le monde entier et l'Église tout entière, et peut-être aussi qu'elle pénètre à l'intérieur de la Jérusalem glorieuse aussi, hein, à partir de l'Eucharistie de la terre. Alors on a engagé, on se dit, mais pour que le Père Emmanuel puisse être canonisé, on ne va pas attendre 330 ans quand même. Alors, on fait une neuvaine. Et on dit au Père Emmanuel, Père Emmanuel, pendant 9 jours, on vous supplie, on fera la prière que vous disiez tout le temps à la Santissima Bambina, puisque la Vierge est apparue dans votre maison quand vous avez 5 ans. Elle est apparue des milliers de fois. Voilà. Et elle dit, il faut dire, le chapelet, les 3 Ave fleuris. Alors, on disait toujours les 3 Ave fleuris, et il y a eu la Santissima Bambina qui a pleuré, enveloppée de parfum, et il a fallu que l'évêque de Bordeaux vienne dans la maison pour ordonner qu'elle s'arrête de pleurer. Et elle s'est arrêtée de pleurer, mais du coup, elle suffoquait. Et à chaque fois qu'elle suffoquait, des torrents de parfum, et miraculeux, ça. Il a vécu comme ça, le Père Emmanuel. Et il y avait le message qui était derrière aussi. Et il devait fonder dans les montagnes ici. Un désert de liberté totale, parce que Marie nous a donné cette liberté totale de son enfance libératrice. Et c'était sa mission au Père Emmanuel. qu'il a englouti dans la mort de Saint-Joseph le 19 mars 1992. Alors, ça fait vraiment quelque chose. Et donc on fait cette neuvaine, et la neuvaine elle commence aujourd'hui, pour ça je ne pourrais pas vous dire demain, elle commence aujourd'hui la neuvaine. Donc on dira quand même avant de s'endormir, ou alors à la fin de la messe, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais on va dire les trois Ave, et chaque matin, c'était le Veni Creator. Le Veni Creator, Notre-Dame de la Pentecôte, la petite Vierge qui aspire le Saint-Esprit dans le peuple de Dieu. 14 ans avant le mystère de l'incarnation, chemin de croix des larmes de Marie, enfant, dans sa naissance. Et ça, c'est une spiritualité, c'est une mystique, c'est pour faire comprendre comment on rentre dans le diamant du sanctuaire de la royauté paternelle de Dieu. Qu'elle épouse, et c'est parce qu'elle l'a épousé dès son enfance et sa vie embryonnaire dans le miracle des trois éléments de la Vierge vie, que du coup, elle était immédiatement co-rédemptrice, immédiatement médiatrice, immédiatement mère par anticipation, par appropriation et par puissance. Et ça, c'est un message pour l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Ce message du Père Emmanuel et sa mission est très, 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 très importante, puisqu'on s'enfonce de plus en plus dans la petitesse minuscule du oui originel, dans l'indivisibilité de l'Immaculée Conception, qui aspire l'Esprit Saint dans sa spontanéité, à la fois incréée et à la fois glorieuse, et à la fois créée. Voilà. Alors, donc, la neuvaine, c'est trois Ave fleuries, et puis Veni Creator, et puis Père Emmanuel, on va vous demander un miracle. Alors, le miracle qu'on demande, vous savez que pour canaliser quelqu'un, il faut obtenir un miracle éclatant. Pas, oh, j'ai un rhume, et puis j'ai plus de rhume. Hein? Non, non. Non. Un miracle éclatant. Alors, le miracle éclatant qu'on demande au Père Emmanuel, je ne sais pas combien il y aura de centaines de personnes qui vont faire la neuvaine, je ne sais pas, je ne peux même pas le savoir, mais c'est lancé, en tout cas, c'est parti. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils allaient faire la neuvaine. Bon. Et puis ça se répand, vous savez, à la manière qu'on ne sait pas. Bon. Et parce que tout le monde aime le Père Emmanuel.
Il est tellement... Il n'y a aucun problème avec le Père Emmanuel. On accepte tout, le Père Emmanuel. Même le pire.
Et il l'a mérité.
On a bien... J'ai bien dû t'accepter, toi, Patrick. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire?
Alors, il l'a bien mérité. Alors, on accepte tout quand c'est le Père Emmanuel. Marrant, hein? Tout le monde aime le Père Emmanuel, même s'il ne l'a jamais vu. C'est très curieux. Quelqu'un, il est très... Et voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je raconte ça? Je ne sais pas. C'est parce qu'on fait la neuvaine, oui. Donc, on demande un miracle éclatant. Le miracle éclatant, c'est que l'évêque... du Puy-en-Velay, Notre-Dame de France, la pierre noire, ouais, les 153 ans de la guerre de Crimée, là, il faut tout renverser, quoi. Il faut que l'évêque, le successeur des apôtres de ce diocèse, qui est en train d'agoniser d'un cancer vraiment terminal, hein, normalement il devrait être mort depuis, il est peut-être mort d'ailleurs cette semaine, je ne sais pas. Voilà. La neuvaine est lancée pour qu'il y ait une guérison miraculeuse, éclatante, à la cause de la neuvaine, par l'intercession du Père Emmanuel, par la médiation de la Santissima Bambina. Entre Père Emmanuel, allez, Père Emmanuel, maintenant, à vous de souhait, par la médiation de la Santissima Bambina, voici la neuvaine, on dit les Ave avec vous, et on dit Veni Creator, et on demande la guérison miraculeuse éclatante du cancer terminal de Mgr Henri Brincard, évêque du Puy, que vous avez...
Mais c'est très judicieux d'avoir choisi cette intention et ce miracle. Moi, ça me plaît beaucoup. Moi, je l'ai très bien connu, Henri. Il est venu me voir au moins une cinquantaine de fois à l'Ermitage de Montmorin. Oh, on s'est toujours frité. Ah, c'était toujours la frite, hein. Ça, oui. Je ne supportais pas. Donc c'est normal. Bon, et comme ça, très bien. Avec Saint-Esprit, très bien. Et Saint-Esprit, très bien. Ok, très bien. Il va comprendre comme ça pourquoi il s'est frité. Son cancer va s'effriter. Alléluia.
Ce serait beau, c'est magnifique. Alors si il guérit Monseigneur Henri Brincard, on sera très très heureux, on sera très content. Alors si vous êtes sourd, mettez-vous derrière la porte, comme ça vous entendrez mieux. Il y a la salle de l'écho parce que c'est bon ici, donc ce que je dis ici vient sur elle directement. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et donc le deuxième jour de la neuvaine, c'est demain, on ira sur sa tombe et on célébrera la messe si c'est possible, au pied de la Santissima Bambina. Et les trois Ave Maria, on va les dire après la messe, hein, pour la première supplication de la neuve du jour. Est-ce que ça vous va? On fait comme ça. Enfin, si vous voulez bien m'accompagner dans cette neuvaine, bien entendu. Alors, est-ce que quelqu'un a un Magnificat ici? Parce qu'il y a le lectionnaire, mais il n'y a pas le Magnificat. La bonne nouvelle se fait entendre et elle crie le voici. Comme va ça, me va ça, Roma, comme va ça, Roma, comme va ça. Elia, tu suis, Elia, qui l'a dit. Bimera Yavo Alaidu, Bimera Yavo Alaidu, Imashir Ben David, Imashir Ben David, Yeshua Imashir Ben Elohim Ben David, Imashir Ben David. De la poitrine déchirée, de l'agneau immolé, tu t'en vas. De la poitrine déchirée, de l'agneau immolé, tu t'en vas. Vole, vole de ce colon, vole, vole de ce colon, vole, 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 vole. Vole, vole de ce colon, vole, vole de ce colon, vole, vole. Et le voile se déchire, et la bonne nouvelle entend, le messager qui crie, le voici. Le voici, le Messie sur les nuées du ciel, le voici. Il vient ouvrir tous les voiles, des temps de la terre, alléluia, Maranatha. Pitié mon Père pour ceux qui t'abominent, pitié mon Père pour ce scandale du monde, Pitié, mon Père. Hosanna, 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 Masha ben David, Hosanna, Masha ben David, Yeshua ben Elohim. Hosanna, 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 Masha ben David, Masha ben Elohim. Vole, vole, douce colombe, vole, vole, douce colombe, vole, 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 vole. Et du voile déchiré, de sa compassion immaculée, sa fruition d'éternité, dans le paraclet. Elle s'envole, sert blessée, savoure la brise fraîche de ton vol, oui, tu t'envoles. Vole, vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe, vole, 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 vole. Et répands ta dans toutes nos terres dévastées, pour redonner l'éternité d'une liberté immaculée. Vole, vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe, vole, 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 vole. Eliaho, Anavi, Eliaho, Atispi, Eliaho, qui l'a dit. Comme Vassa, me Vassa, Vassa, comme Vassa, me Vassa, Vassa, comme Vassa, me Vassa, 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 Bimera, Yahavo, Eleinu, Bimera, Yahavo, Eleinu, Bimera, Yahavo, Maranatha, Imashia ben David. Imashia ben David, ben is ben Elohim, ben is ben Elohim. Sur les nuées du ciel, tu t'enfonces dans le rocher tout brisé. Tu viens répandre ta rosée. Maranatha, 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 Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vole, vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe, vole, 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 vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe. Pitié pour ce scandale du monde, Hosanna. Pitié pour ceux qui te fuient, Hosanna, Hosanna. Pitié pour ceux qui sont libres de tout péché, Hosanna. Pour ceux qui te prient, Hosanna. Hosanna, 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 Messia ben David. Hosanna, que ton royaume arrive, ton royaume est là, l'heure est venue, l'heure est là. Maranatha, viens Yeshua. Hamashia ben Elohim ben David ben Yosef ben Myriam. Viens répandre sur le monde entier les trésors de ton infini miséricorde. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Fils de l'homme, sur les nuées du ciel s'enfonce dans le mystère du temps pour nous arracher au pouvoir de Lucifer et pour nous emporter dans le mystère de l'agneau, libérer toute faute, reconnaissant dans son Père, dans le sanctuaire royal et paternel de notre vie, dans l'indivisibilité de notre don. Et supplions-le, Sana, pitié pour nous, sauve-nous, t'en supplions. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre, offre-nous ta miséricorde, et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum eorum tribuat vobis omnipotens misericord dominus. Amen. Kyrie.
Gloria Dei Patris. Amen. reine. Oh, viens, je Jérusalem, glorieuse et bénie, vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Signe de division, car toi-même en ton cœur, transpercé par un clair, tu auras la source de toute bénédiction, Vierge d'Israël, gloire de notre peuple. Et toi, Seigneur, tu as voulu que la mère de ton Fils, debout près de la croix, soit associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, dans un mystère de compassion accompli et parfait à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection, en toute plénitude, lui qui vit, règne avec toi dans les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour.
Non, non, tu peux t'asseoir.
Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets. Seigneur, mon esprit, entre tes mains, je remets ma vie. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute, Père, viens me délivrer. Entre tes mains, entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, entre tes mains, je remets. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse, mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, Abba, tu me guides, me conduis. Entre tes mains, entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, entre tes mains, je remets. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu, oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur,
Dieu de vérité. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu Abba. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Entre tes mains, entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre son grand et bienfait, tu le réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Entre tes mains, entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre connaître la mort, tu as mérité la gloire du martyr. Alléluia. 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 Avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, Yeshua, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis Jésus dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Il répand sa rosée sans parfum, ses délices sur toute la surface de la terre, pénètre dans toute chair, assoiffée, toute âme. Assoiffé de sainteté, de grâce et de vie éternelle, qu'il puisse chacun voir s'ouvrir les portes de la Jérusalem dans la venue du Fils de l'homme sur les nuées, qu'il le voie dès cette terre libéré de toute entrave et lavé de toute faute au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. Aujourd'hui au mystère de compassion de Marie, il aboutit. La démarche, si vous voulez, de l'alliance du Fils de Dieu vers le Fils de l'homme qui vient, cette rencontre prodigieuse du Fils de l'homme et du Fils de Dieu dans le corps mystique vivant de Jésus, trouve son indivisible présence dans le baiser de l'amour, dans le mystère de compassion de Marie qu'on fête aujourd'hui. Nous le savons bien cela. Nous l'entendons, mais en même temps, on est prophète, on est roi, on vit de cette sainteté, on la contemple, on l'assimile, on en vit, mais on est prophète aussi parce qu'on sait le temps dans lequel nous sommes, le temps doit s'ouvrir, le monde nouveau est là. C'est vrai qu'on aboutit à un moment où il semblerait que l'Église de Marie, l'Église de la Compassion, sont obligés de s'envoler dans le désert. Le dragon est rouge, la bête de la mer et aussi la bête de la terre, et le léopard a cette tête et a 10 cornes. Toutes ces manifestations sont là. Et l'Église est obligée de s'envoler dans le silence, dans le désert de Dieu. Et le désert de Dieu, c'est Marie. Le désert de Dieu, c'est Marie dans sa compassion. Et la dernière lumière, la dernière parole que le corps mystique de Jésus a prononcée, c'était le dernier concile, si vous voulez, concile Vatican II. C'est extraordinaire, le dernier dogme, c'est l'infaillibilité du Saint-Père, Concile Vatican, et puis le Concile Vatican II, qui désormais met une attention, « Ite missa est, maintenant vous êtes libre, vous allez pouvoir vous envoler dans le désert. » Et vous savez, la grandeur de cette proclamation infaillible de l'Église terminale, c'est une proclamation qui dit maintenant, « Je ne condamne plus, nous ne pouvons plus condamner, nous jugeons le monde, nous jugeons le péché et nous déclarons la victoire de Dieu sur Satan. » Voilà ce que c'est que le Concile Vatican. C'est la seule chose que je puisse dire. Nous n'avons rien d'autre à dire que le jugement, c'est un jugement, un discernement sur le péché. Le péché, c'est de ne pas croire en celui qui vient. C'est de ne pas croire en celui que le Père envoie de son sanctuaire et du ciel eucharistique. Et quand le concile s'est terminé, le pape, vous le savez, et nous le savons, mais il faut le répéter souvent, c'est la première fois qu'un concile, pendant 2000 ans, a déclaré que Marie était médiatrice de toute grâce. Lumen Gentium, chapitre 8. Je me rappelle comme Mgr Segui est venu à Montmorin et qu'il a fait son premier serment à Montmorin pour consacrer la chapelle que nous avions construite de nos mains. Il s'appelle Rose.
Et Monseigneur, c'est qui ? Sa croix, ce qui, la première fois qu'un concile a proclamé que Marie était médiatrice, c'était au concile Vatican II. Oh, il a donné un coup de crosse. Le père Benoît dit, Et ensuite, à la fin du concile, il y a eu, c'est le seul concile qui ne condamne pas. Tous les autres conciles. Et il n'y a pas besoin de condamnation, puisque le jugement, c'est que désormais, il faut avoir la foi de Marie. Et le pape a dit, maintenant, nous allons proclamer universellement, ensemble, que Marie est mère de l'Église. L'évangile de la compassion de Marie, Jésus sur la croix dit, voici ta mère. Et quand Jésus, crucifié dans le monde, c'est-à-dire l'Église catholique, l'Église catholique, c'est tout simplement ceux qui sont les stigmatisés, qui portent l'union hypostatique déchirée de Jésus hein, dans son holocauste brûlant d'amour. Hein, et sont transformés dans la compassion de Marie jusqu'à l'ultime, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'accomplissement et la plénitude. Donc Jésus entier de l'Église, la dernière parole qu'elle prononce, c'est de dire « Voici ta mère hein. ». Et le fait que cette parole soit prononcée par le corps mystique de Jésus dans son immolation, et la compassion de Marie, et sa médiation toute grâce, chapitre 8, de la lumière de tous les peuples, le fait qu'il ait dit ça, que le conseil dit ça, montre l'heure de l'Église. L'Église, au bout de 2000 ans, arrive à l'heure de Jésus crucifié, où il donne sa mère avant de donner son Esprit Saint, dans l'âme toute palpitante de lumière agréée de Saint Joseph. Et à partir du moment où Jésus a dit ça, il n'a plus rien d'autre à dire, sauf « j'ai soif, hein, j'ai soif, j'ai soif, de la, j'ai soif. » Et l'Église vient de dire, voilà, Jésus a dit « voici ta mère » et nous sommes dans cette espèce de... Et alors du coup, bien sûr, on est dans ce temps, c'est ça la prophétie. On comprend le temps dans lequel on est au pied de la croix, l'Église l'annonce, Jésus vivant nous l'annonce de l'intérieur, puisque nous sommes à l'intérieur de l'intérieur de Jésus, dans la compassion de Marie avec elle, et nous entendons « Voici ta mère ». Et à Marie, l'heure, c'est le pouvoir des clés du Saint-Père, qui fait que cette parole devient réaliste, ce qu'elle signifie en nous. Et voici ton engendré, c'est Jean de l'Apocalypse, c'est ceux qui sont caressés jusque dans le corps spirituel de l'intérieur par la grâce divine, Yohana. Dieu te caresse d'amour de l'intérieur, une caresse sensible, sanctifiante et glorieuse, dans l'intérieur de chaque intériorité vivante de ton corps spirituel. C'est l'heure de Yohanan, c'est l'heure du corps spirituel, c'est l'heure où cet engendré de la grâce devient un engendré éternel dans le Verbe de Dieu qui disparaît. Et l'Église, Marie, la Jérusalem spirituelle qui touche ainsi le Yohanan, cette caresse intérieure de l'amour préférentiel, qui fait qu'on est identifié sur un plan sacerdotal, parce que c'est l'holocauste brûlant d'amour qui fait de nous des prêtres selon l'ordre de Melchisédek avec Jésus dans une seule sacerdoce. Fait que Marie désormais en nous voit cet holocauste brûlant d'amour dans un unique sacerdoce éternel. En communion avec Melchisédek, le sacerdoce éternel, victimal angélique, sans limite et sans fin. Voilà le message du Concile Vatican II. Et je le redis, nous le redisons ici, parce que on a tellement entendu dire que ce concile est un concile satanique. C'est incroyable, le concile qui proclame que Marie est médiatrice, que Marie, dans sa compassion, et que c'est maintenant que le pape considère, avec tous les évêques du monde et le Saint-Esprit, que c'est maintenant que nous rentrons dans le temps de la parousie, et que nous soyons envolés dans le silence du désert de Dieu, comme l'explique l'Apocalypse. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Alors bien sûr, hein, On est d'accord? Du coup, à l'extérieur, ceux qui restent à l'extérieur voient apparaître les griffes lucifériennes du dragon, de la bête, de la panthère, de la bête de la mer, de la bête de la terre. Et ils voient que ça, le sikus meshom des communions transgressantes. Le sikus meshom, on voudrait crier très fort, mais il n'y a aucun cri à faire. D'autres que celui de la compassion de Marie, ouvrant tous les temps, pour qui la contemplation finale de la Jérusalem spirituelle, celle qui ouvre le voile du Verbe de Dieu, qui dans sa spiration sponsale avec le Père, s'enfonce à nouveau d'en haut, dans le mystère eucharistique, pour ouvrir tous les temps, à partir de l'autel céleste sublime, éternel, de son sacerdoce victimal éternel. Et avec nous, il donne, et Marie, il donne ce pouvoir de célébrer l'Eucharistie à partir d'en haut, l'accomplissement des temps dans le silence, stupéfié, extasié de la création tout entière. Nous sommes dans ce temps-là. Voilà ce que nous dit au fond l'évangile d'aujourd'hui. Pour la compassion de Marie, voici ta mère. C'est assez stupéfiant, et puis en même temps c'est très parlant pour nous. C'est sûr. Ouais, c'est beau que le pouvoir des clés de l'infaillibilité pontificale devienne silencieuse, mystique, mariale, médiatrice, sacerdotale dans l'ultime et l'accomplissement. Alors le désert de Dieu devient celui du paraclet. Et le paraclet, l'Esprit Saint, est l'acte de tout ce que l'Église est en puissance en Marie dans sa compassion. C'est notre unique préoccupation, c'est d'être dans ce sacerdoce. Dans cette royauté et dans cette ouverture du temps à l'éternité et l'éternité au temps, dans le compassion de Marie accomplie. Hein, c'est notre seul souci. Aussitôt que Jésus a dit ça, aussitôt Marie s'est arrachée et s'est engloutie dans Jésus, vivant et entier dans son sacerdoce victimal éternel et accompli. Dans la caresse de la grâce sanctifiante universelle et accomplie de l'Apocalypse en Saint Jean. Aussitôt, et comme elle a fait cet arrachement, elle a obtenu une supervenue du Saint-Esprit en elle, et l'obombration du Père, elle a été assumée dans l'éternité agréée de la très sainte Trinité, et le Père et le Saint-Esprit ont pu engendrer, faire en sorte que le Verbe de Dieu se réengendre en elle. Et s'arrache lui-même en son âme, dans le fond de la sponsalité avec la paternité, séparée de Saint-Joseph glorieux. Le glorifiant immédiatement. S'il n'y avait pas eu cet arrachement de Marie pour l'Église d'aujourd'hui et de la fin, il n'y aurait pas eu cet arrachement obtenu de l'âme de Jésus, de son corps. Vous savez bien que Jésus ne peut pas mourir. Et que l'unité de l'union hypostatique, de son âme, de son corps, de son esprit, de sa nature humaine, et de la toute personne agréée de sa divinité, est un. C'est câble. Ce que dit saint Augustin. Ah, je vous dis une petite parole de saint Augustin. Regardez. Saint Augustin, il dit que l'unité qu'il y a entre le Père, c'est beau. Quelquefois c'est beau la théologie. Saint Augustin, saint Thomas d'Aquin. L'unité, saint Thomas d'Aquin reprend ça dans un traité de mystère de l'incarnation. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une unité totale. Ça fait une seule nature. Mais l'unité ne fait pas disparaître les personnes. Chaque personne reste une personne. Tandis que dans l'unité de Jésus, entre la divinité de Jésus et puis le sang
l'âme humaine de Jésus, le corps de Jésus, la personne de Jésus. L'unité est tellement grande qu'elle fait disparaître la personne humaine et qu'il n'y a plus que la personne divine. Donc l'unité qu'il y a dans le mystère de l'union hypostatique de Jésus est plus forte que l'unité qu'il y a entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Vous aviez déjà entendu ça? Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. L'unité qu'il y a, oui, parce que la personne humaine et la personne divine sont tellement unis qu'il n'y a pas de personne divine. Il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine, et une seule personne. Donc cette unité est insécable. Eh bien, Marie, dans sa compassion, Jésus lui a dit, voici ton engendré éternel, il est là, dans Jésus vivant et entier, dans la parousie de l'accomplissement, de la grâce, lié à l'éternité du Verbe de Dieu entier, en toute chair dans le Fils de l'homme. Aussitôt, elle s'est arrachée, elle est rentrée en nous, dans le corps mystique vivant de Jésus entier, infaillible et accompli. Cet arrachement a fait que le supervenu du Saint-Esprit a pu s'embrasser de son oui. Le Père de l'éternité a pu l'assumer, et dans cette assomption, du coup, il a engendré dans le Verbe de Dieu avec elle l'arrachement de l'âme de Jésus hors de son corps, ce qui est impossible. Et c'est le troisième aspect de la compassion de Marie. On a vu le premier aspect à minuit, on a vu le second aspect ce matin, et le troisième aspect qui est là de la compassion de Marie. Alléluia. Et le Concile Vatican II nous enseigne ça. Et nous dit, c'est maintenant, il faut rentrer, le voir, le toucher, le contempler, l'assimiler, en vivre et nous laisser emporter dans le désert de l'ouverture des temps. Le monde ancien est terminé. Le monde nouveau est là. Et Père Emmanuel, voyez, bah, et ici, un petit peu Benoît, sont épanouis leur vie dans le désert de la vie contemplative. Voilà, tu n'en parles plus, c'est pas la peine. D'autant plus qu'il va y avoir l'adoration. Alors vous verrez, maintenant, on ne va pas entendre trop notre son, parce que ça traverse là. L'adoration nous embaumerait. Nous rentrons dans le désert immaculé du silence de Dieu. Eucharistique, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Mais on peut en profiter. Qu'un trou se fasse dans le temps et dans l'espace de l'univers pour que nous soyons emportés sur l'autel sublime, parfumé, céleste et divin, et que nous découvrions le désert de Dieu dans la compassion accomplie de Marie assumée qui engendre dans le Verbe de Dieu l'arrachement de son âme dans la responsabilité glorieuse. Pour qu'il y ait l'Esprit Saint. Cette passivité substantielle agréée, cette fruition immaculée qui s'empare de notre gloire, de toute la Jérusalem glorieuse ressuscitée. L'Eucharistie va avoir une fécondité royale dans l'unité des cœurs glorieux ressuscités de Jésus, Marie, Joseph. L'Eucharistie de la terre va avoir une fécondité jusque dans le monde et l'univers de la résurrection de l'unité d'amour glorieuse, royale et céleste de Jésus-Marie-Joseph, puisqu'elle va ouvrir le voile. Nous devons prendre conscience de la mission de l'Église, de l'accomplissement des temps. Si on ne l'entend pas, si on ne le comprend pas, nous ne serons pas fidèles. C'est ce qui a été le malheur d'Israël. C'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas voulu aller plus avant. Et c'est en même temps leur grâce, puisque l'accomplissement des temps, ils sont réengendrés dans la réintégration du pain complet, dans le
mystère de Marie, parce que dans cette mission-là, nous sommes à l'identique avec eux. Hosanna, Hosanna, plus haut des cieux.